Bonjour, je m'appelle Juelle Boulay. Bienvenue à la troisième saison de Jason Éducation. Aujourd'hui, mon invitée, Micheline Girardin.
Je m'appelle Micheline Girardin. Bienvenue à Jason Éducation, où nous parlons des sujets qui intéressent les pédagogues qui travaillent en français dans un contexte minoritaire. Nous, des enseignants déterminés et ambitieux, nous posons des bonnes questions pour nous faire réfléchir à la pédagogie afin de mieux appuyer nos élèves.
Micheline détient un bac en chant classique avec une concentration en interprétation de l'Université de Sherbrooke. Après ses études, elle est revenue au Manitoba et a eu la chance de partager son temps entre la scène et l'enseignement. N'ayant pas l'intention d'enseigner, Micheline se retrouve désormais à adorer partager sa passion pour la musique en français au cœur de sa communauté. Plus récemment, elle appuie les enfants dans les cours de théâtre où elle porte une attention sur les techniques de la voix et la santé vocale. Bienvenue, Micheline!
Bonjour, ça va bien?
Oui, merci. Oui. Toi?
Oui, très bien, très bien.
Alors, déjà, on a appris beaucoup sur toi. J'aimerais aussi savoir exactement pourquoi tu es tombée dans l'éducation.
Alors, c'était par hasard, il y avait un poste à combler, mais l'éducation, ça a toujours fait partie de la formation d'artistes. Je veux dire, la majorité des artistes... il y en a qui choisissent de ne pas le faire, là, mais souvent les artistes vont être sollicités à faire des ateliers ou à offrir des classes de maître ou quelque chose. On redonne aux étudiants ou aux gens qui veulent apprendre au sujet de la musique et l'art de la scène. On veut redonner à ces gens-là. Et donc, c'est presque
naturel.
On s'attend à faire ça quelques fois dans la vie. Moi, je me suis retrouvée à le faire un peu plus souvent. Donc, c'était vraiment juste, ça s'est juste adonné comme ça. Puis je suis contente que c'est arrivé parce que j'adore ça.
Excellent! On peut parler de ton enfance maintenant. Comme pourquoi as-tu tellement d'intérêt pour la musique et le théâtre?
Bien, moi, j'ai toujours eu la chance de vivre ça. Dès la petite enfance, à la petite école prématernelle, j'étais à Saint-Norbert, à Noël-Richotte, puis on faisait des cours de chorale déjà, on travaillait la musique, on faisait la chorale, on avait toujours un spectacle à chaque année, on avait la musique dans la communauté aussi, tout le monde allait chanter à l'église à Saint-Norbert, puis il y avait des chorales d'enfants, des petits intrépides, tout ça, donc c'était presque... C'était même pas « est-ce que tu veux? » C'était « ah, on fait ça. Mm-hmm. On participe à ces spectacles-là et on va vivre ces expériences-là. » J'ai eu la chance de pouvoir faire ça avec des grandes pédagogues aussi qui ont eu une très grande influence. C'était vraiment... je le savais pas à ce moment-là, mais en vieillissant, j'ai appris que, waouh, ouais, des très bons formateurs, éducateurs. Et juste des gens qui étaient passionnés par la musique, ça faisait partie de la communauté, de notre quotidien. Nos parents, ils se rencontraient dans la communauté à faire de la musique et tout ça. Donc, ça a juste fait partie de notre quotidien.
C'était naturel.
Puis ça se faisait en français. Alors, on était vraiment choyés avec ça. Du côté des amis anglophones, on le faisait moins souvent. Donc, on passait donc plus de temps avec ces gens-là qui faisaient de la musique.
Puis, on dirait quand même que tu as un don pour la musique.
J'aime ça. Puis, j'ai aimé ça dès mon plus jeune âge, ça, c'est sûr. J'ai eu la chance... quand je suis arrivée à Saint-Boniface au secondaire, il y avait les boîtes à chansons. Alors, être nouvelle étudiante d'une autre communauté aussi qui connaissait personne, je cherchais à comment rejoindre tout le monde. J'étais pas athlète. J'étais académique, mais personne s'intéressait à quelqu'un qui aimait apprendre à cet âge-là, 12-13 ans à peu près. Donc, la musique, c'est devenu vraiment l'option. Et on avait fait nos petits bands, on faisait nos petits spectacles au foyer, puis à l'école et tout ça. Et donc, j'ai eu des opportunités très positives et assez professionnelles. Je veux dire, quand on faisait des spectacles, des fois, c'était avec des grands musiciens professionnels. Puis il y avait Radio-Canada qui était présent, on faisait filmer. Alors, tu sais, c'était quand même important. Puis on était de tous les niveaux aussi. C'était vraiment un espace où tout le monde pouvait s'essayer à vivre la musique en français de cette façon-là.
Puis avais-tu suivi comme des cours de musique toi-même?
Moi-même, oui. À quatre ans, j'ai commencé à Saint-Norbert, puis à 15 ans, j'ai arrêté et j'ai commencé les cours de chant. Puis après, j'ai juste continué en voix au lieu de piano. J'avais mon prof qui avait dit, « T'as l'air moins intéressée au piano. » Il dit, « Même, je te veux juste ici parce que j'aime t'entendre chanter. » J'ai dit, « Ah, OK. » Ça, j'ai trouvé une prof de chant privée après ça. Parce que les cours formels ne se faisaient pas à l'école. Plus que ça, on faisait harmonie, surtout. Mon école n'était pas une grande école. On n'avait pas une grande chorale et tout ça. So. Oui.
OK. Alors, une chose aussi comme... Alors, moi, je suis enseignante à la cinquième année et je viens déposer mes élèves dans la classe de musique. Ensuite, je pars. Et honnêtement, je ne sais pas vraiment comment que ça a l'air dans la salle de classe. Comme j'ai l'impression que ça doit être très différent que ça a l'air dans ma classe, mais...
Oui, oh non, ça, t'as absolument raison. Moi-même et plusieurs autres enseignants, on suit quand même, comme à la DSFM, la même formule, qui est une méthode ORF, une façon d'enseigner qui est plus holistique. On ne va pas vraiment s'asseoir là, lire et écrire la théorie, puis répéter des pièces comme on fait dans les cours privés. Les élèves arrivent avec un niveau complètement différent. Il y a des élèves qui ont pris des cours de musique depuis qu'ils ont 4 ans. Il y a des enfants qui n'ont pas pris de cours, pas toutes. Alors, afin de pouvoir équilibrer ça, cette méthode encourage vraiment l'apprentissage de la musique sans vraiment porter, vraiment viser la musique comme telle. C'est un langage, c'est apprendre une nouvelle langue. Alors, c'est une grande pression quand tu dis « Non, c'est quoi cette note-là? Quelle est cette note-là? » Alors, on utilise beaucoup de mouvements. Je sais que quand les gens passent dans le cours, ils disent « Pourquoi est-ce qu'il marche comme ça? » Mais on marche pour sentir la pulsation. On marche pour apprendre les lignes musicales, apprendre la hauteur des notes, ce qui est aigu. Même ce qui est aigu peut être un peu vague quand tu le vois sur papier. Il faut vraiment le ressentir. Et beaucoup de rotation, beaucoup d'écho, répondre. Je donne la phrase musicale, il répète la phrase musicale et tout ça. Donc, c'est vraiment une méthode qui... Et même quand on est aux xylophones et tout ça, c'est vraiment une façon plus accessible à tous les niveaux. Et après, à la fin, tout le monde joue ensemble, peu importe. Et c'est ce que moi, je trouve magique de cette méthode-là, c'est de vraiment focusser sur la musique sans vraiment dire « Vous êtes en train d'apprendre la musique.
» Oui, et j'ai l'impression que toi, tu as eu cette expérience toi-même aussi. Oui. Parce que tu avais, oui, tes leçons privées,
oui.
Mais tu avais aussi comme juste le sentiment de communauté avec un groupe de personnes qui chantaient, qui faisaient la musique.
Oui. Donc, un des grands buts aussi, c'est de... Les cours de musique vont permettre... Ils nous permettent vraiment à donner une chance à l'élève de vivre une expérience positive, mais c'est en français. Et c'est un art qui a beaucoup plus... On parle plus, on utilise beaucoup plus de langage. Donc, quand on fait du dessin ou de la peinture, des fois, il peut y avoir beaucoup de moments où c'est calme, on ne parle pas beaucoup, on n'a pas des discussions. On peut avoir des discussions un peu sur ce qu'on voit, qu'est-ce que tu vois dans la peinture, mais en musique, c'est vraiment, on est toujours en train d'utiliser les phrases, toujours en train de parler, toujours en train de les pousser à faire développer un langage. Quand ils apprennent une chanson, ils ne connaissent pas un mot, bien, on va découvrir c'est quoi ce mot-là. Mais on n'est pas en train vraiment de les faire travailler la grammaire, travailler l'écriture, travailler comment est-ce qu'on devrait dire la phrase de la bonne façon. C'est comme ça que c'est, point final. Puis ils apprennent le rythme du phrasé, la structure des phrases. Puis c'est positif. On a eu un spectacle il y a quelques semaines, puis « Wow, c'était le fun! Tout le monde était content! Ils étaient dans leur belle petite robe, dans leur boutique, dans tout ça. » Puis ils se sont vraiment amusés et c'était tout en français, même tout ce qui les entoure est en français. Et c'est comme deux langues qui sont en train d'apprendre en même temps, sans vraiment avoir un stress de vraiment le faire correctement et de la bonne façon.
Et en disant ça, tu étais en train de sourire, puis ça m'a fait penser comme, oui, vivre une expérience comme ça avec un groupe, c'est vraiment spécial. Et j'imagine que ça doit avoir beaucoup d'impact positif sur la santé mentale et le développement de l'enfant.
Oh oui. Ben, il y a souvent à l'école, il y a des cours que ça va moins bien, des cours que ça va mieux. Et où c'est des mathés où on j'ai pas bien eu sur mon test, il faut que je travaille ça, je comprends pas ça. En musique, de cette façon de l'enseigner, on n'est pas vraiment en train de leur mettre de la pression sur ce qu'ils connaissent pas vraiment. C'est comme, on va juste le répéter, on va faire des erreurs. Moi, j'encourage qu'ils fassent des erreurs. Souvent, si un élève dit, mais madame, il a pas bien joué, elle a pas bien joué, on est en temps de pratique ici. Est-ce que vous jouez le xylophone tous les jours? Non. Est-ce que vous jouez la flûte à bec tous les jours? Non.
Heureusement. Vous j'aime devez... pas la flûte à bec.
Oui. Alors, c'est pour ça qu'elle reste pas dans mes cours. On fait la flûte à bec en cinquième année. Et justement, des fois, entendre une dissonance, entendre l'erreur, c'est comme quand on apprend à parler. Quand on entend les erreurs, on le remarque plus. Quand on entend l'erreur en musique, c'est comme, pourquoi t'as fait ça comme ça? Ça, c'était, il faut que je corrige, il faut que je bouge, il faut que je bouge mes bras, il faut que je trouve la bonne note. Tu sais, alors, on pratique et j'essaie vraiment des fois de comprendre que cette erreur, c'est pas un échec, là. Mm-hmm. On s'essaye, puis point final, je dis, le seul échec, c'est que tu ignores complètement, puis tu fais rien. Si tu fais rien, là, ben oui, peut-être on va avoir des erreurs. Des bémols, qu'on appelle ça, nous autres. Mais, c'est beaucoup plus... j'essaie de rendre ça plus positif de ce côté-là, parce que, justement, ils ont des longues journées, je les ai seulement pendant 30 minutes. Et ce 30 minutes-là, ça vaut... C'est important pour moi que ça soit... ça se passe bien. Ça, c'est mon choix personnel. Je ne sais pas si d'autres éducateurs font ça comme ça, mais moi-même, j'ai fait ce choix-là que la musique devrait être un environnement positif, une expérience positive. Trop souvent, quand j'ai vieilli, il y a des gens qui ont arrêté les cours de musique et arrêté de chanter complètement parce que quelqu'un a dit « Je ne chante pas, OK? Je ne chante pas. » Alors, moi, je me suis promise de jamais faire ça.
Alors, quand ça se déroule bien... Ça peut être quoi les avantages comme au niveau du cerveau ou du bien-être de l'enfant?
Bien, c'est... souvent, c'est pour répondre à l'importance des cours de musique aux grands boss ou à d'autres gens, il faut avoir ses preuves scientifiques et tout ça. Puis il y a eu plusieurs recherches et plusieurs études, surtout récemment parce qu'on a de la meilleure technologie. Donc, l'écoute de la musique et l'apprentissage de la musique engagent les mêmes hémisphères d'apprendre une langue que de parler, la communication. Donc, l'avantage, c'est que tu es en train d'éveiller ces parties-là du cerveau pour l'enfant, sans qu'il le sache. Et tu as créé un lien aussi entre la entre l'écoute et le parler. Il faut vraiment travailler la mâchoire, il faut vraiment travailler la prononciation, des choses que peut-être on fait moins souvent à tous les jours. Ça se développe comme le langage c'est la vibration. Donc, on est en train de parler et quand on chante, ça vibre. Je les apprends souvent à mettre la main sur la poitrine pour sentir la vibration de la voix, même la vibration d'un instrument qui vient nourrir le corps et vient donner un moment de... c'est juste un sentiment. Ils peuvent jamais mettre le doigt dessus et on n'est pas capable de l'expliquer, c'est juste un sentiment qu'on reçoit après. Combien d'études qui parlent de la preuve, de l'influence de chanter sur le corps, puis chanter comme dans le cerveau, chanter ta chanson préférée, comment ça peut vraiment te mettre de bonne humeur. Je veux dire, les élèves en cinquième année me demandent encore des chansons qu'ils ont chantées en troisième, parce qu'ils ont aimé ça, ils ont eu une expérience positive. Et donc, ça vient vraiment répondre à ce besoin-là, d'engager le cerveau, d'engager le corps, la respiration, on respire, on s'étire. Je veux dire, il n'y a que des bonnes choses.
Oui, c'est vraiment physique.
Très physique. C'est entièrement physique. La première leçon, le premier jour, je leur dis que vous êtes l'instrument. Vous êtes un instrument de musique. Sans vous, il n'y en a pas de musique, il n'y a pas de son. Tu as besoin de quelqu'un pour tirer l'archet sur un violon, tu as besoin de quelqu'un pour souffler dans la flûte. Des fois, ils vont me faire une joke, ils vont dire « Non, madame, tu peux juste avoir le vent. » Oui, bien, sois le vent et souffle dans ta flûte, OK? Et même pour des élèves qui ont de la difficulté, par contre, quand on est dans un groupe et dans une équipe, ceux qui ont peut-être moins porté attention, qui ne connaissent pas leur note à flûte à bec ou quelque chose, ils vont quand même faire de l'effort pour faire semblant et soutenir le groupe et vraiment bien paraître devant tout le monde. Alors, tu sais, ça engage tous ces petits côtés de ton cœur, de ton corps, pour dire, oh, OK, il va falloir que je mette un peu d'effort là-dedans. Et donc, oui, c'est vraiment, c'est très physique, c'est très physique. On s'étire, on respire, on danse énormément, on marche énormément sur des rythmes, des pulsations, des choses comme ça. Et parce que je leur dis, même ton batteur préféré dans un band, s'il joue 3 minutes, il va être en sueur. Il faut que tu pratiques. C'est comme être un athlète et tu dois travailler là-dessus. Tu dois être en forme. Et tu dois avoir ton corps droit, être bien assis et ta bonne posture, tout, tout.
Et on dirait même que ça inclut toutes les 8 intelligences. Ou les intelligences multiples, parce que tu as dit comme, OK, on bouge, on respire, on utilise notre cerveau pour la langue et toutes sortes d'affaires. Mm-hmm. Comme c'est mathématique, le rythme aussi.
C'est très mathématique et c'est mathématique et c'est abstrait aussi, tu sais, de leur faire comprendre la mesure,
ouais.
Les faire comprendre la durée. Des choses. Et c'est aussi le lien avec je viens de lire à propos d'un lien avec le langage, que c'est la structure aussi. On ressemble à un livre. Quand on apprend une chanson, il y a un début, un milieu, puis une fin. Il y a une répétition, il y a une cadence dans tout ça. Dans une symphonie, il y a l'introduction, il y a aussi, juste comme dans la lecture, on apprend les phrases, on a appris les notes, vous avez appris vos lettres. On met tout ça ensemble, puis ça fait un langage, ça fait une phrase. Puis ça vient continuer, ça vient approfondir le débit de la phrase, de comment on parle, de comment on... veut dire, c'est vraiment quand un enfant va écouter un certain genre de musique, parfois va commencer à parler, comme dans la cadence de la musique qu'il écoute. C'est normal, c'est ça la musique qu'il écoute. Et c'est intéressant... Pour moi, on me demande toujours, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas cette chanson-là? On aime celle-là. Je voulais l'écouter à la maison puis à la radio tout le temps. Et si je prends la chance d'écouter des choses différentes, comme ça, ça fait travailler le cerveau aussi. Puis l'autre intelligence qui est développée ou qu'on travaille beaucoup, c'est la création. Alors souvent, je ne vais pas imposer des mouvements. C'est non, vous bougez, montrez-moi votre sport préféré avec votre corps sur le rythme de cette chanson. Puis, bon, puis moi, je dois deviner.
Le soccer pour mes élèves.
Beaucoup de soccer avec les élèves, oui. J'ai beaucoup de soccer, beaucoup de hockey et j'ai beaucoup de gymnastique. J'ai beaucoup de gymnastes. Et une fois, la bicyclette aussi, la bicyclette récemment, si on fait cet exercice-là au printemps. Et aussi même avec les instruments, on veut vraiment les faire évoluer en création aussi, de prendre... les paramètres qu'on leur donne, que vous pouvez utiliser ces notes-là. 4 mesures, go! Mais qu'est-ce que je fais? Ce que tu veux, tu les mets dans l'ordre que tu veux, puis ça va être beau. Et souvent, je vais les jouer pour eux en premier, ou je vais échanger, les autres élèves vont venir les jouer, puis c'est un autre petit succès, c'est un autre petit moment de petit cœur qui fait « Wow, ça, c'était bien ce que j'ai fait, madame! » Je suis comme « Oui, oui, c'était bien! » Puis c'est une autre expérience positive que j'espère qui va aider à continuer un engagement vers la musique.
Tu viens de mentionner beaucoup de stratégies gagnantes pour enseigner la musique, mais est-ce qu'il y a autre chose que tu trouves fonctionne vraiment bien, surtout pour les élèves qui sont plus réticents, parce que c'est pas tout le monde qui aime s'exprimer de cette façon.
Absolument. Surtout quand ils deviennent plus vieux. Et s'ils n'ont pas eu, je veux dire, j'ai remarqué ça avec les dernières années parce que j'ai certains groupes qui n'ont pas eu de cours réguliers en musique. C'est très difficile de les ramener. J'essaie très fort à trouver des façons à connecter avec eux. Et souvent, la meilleure façon, c'est juste de leur faire parler de la musique qu'ils aiment et de la musique qu'ils entendent à la maison, qu'ils écoutent en voiture. Et moi, j'essaie de mon côté de trouver une musique qui ressemble. Parce que souvent, malheureusement, dans nos communautés, c'est en anglais. Donc, j'essaie de trouver un équivalent en français qui pourrait venir les toucher de la même façon. Ou même donner une liste pour que eux choisissent la chanson, les rendre responsables, les rendre comme si c'était leur choix. Et c'est pas à 100% là, que ils sont avec moi, mais ils aiment ça et ça crée une connexion. Puis d'en parler avec leur père, comme ça, avec avec les autres camarades de classe, ça aide. Des fois, ils veulent pas partager avec moi, puis ça, c'est correct, absolument. Mais de juste de leur apprendre qu'une opinion de la musique et en parler, c'est important. C'est quand même vivre une expérience musicale. Et aller à des concerts, aller à des spectacles, essayer vraiment d'aller... J'essaie vraiment d'encourager au Festival du Voyageur, aller écouter les bandes, aller écouter ça. C'est des gens... Il y a beaucoup de gens d'ici. Et je ne sais pas s'ils l'ont fait, ils ne m'en ont pas parlé. Mais ça, c'est... Oui, j'avoue qu'avec les plus vieux, ça devient un peu plus difficile. Mais les dernières années, on n'a pas eu de cours de musique, mm-hmm. on n'a pas eu de flûte à bec et on n'a pas chanté. Jusqu'à la sixième année, ils ont tous vraiment... Ils m'ont demandé de jouer de la flûte à bec. Madame, est-ce qu'on peut faire... Oui. Ça me surprend, mais oui. Puis ils adorent ça. Des fois, quand on enlève les choses aussi, on réalise à quel point c'était important.
Oui, on a tous fait un apprentissage de plusieurs choses pendant les dernières quelques années avec mm-hmm. la pandémie, mm-hmm. c'est sûr. Alors, même si vous voulez jouer la flûte à bec, comment est-ce que vous choisissez quels instruments que les élèves vont apprendre?
Des fois, les budgets, ça influence. c'est une réalité, je veux dire, la musique, les instruments de musique, ça coûte cher, la technologie, ça coûte cher qu'on veut utiliser. Mais et aussi les talents personnels. Je n'enseigne pas la guitare ni le violon. On a des spécialistes qui peuvent faire ça. Mais la flûte à bec, le ukulélé, c'est des instruments qui sont très accessibles à la grande majorité de la population. C'est abordable. Ça répond à l'apprentissage de comme des lignes, des chansons connues.
Okay.
Genre à la Clairefontaine, toutes nos chansons folkloriques, on peut toutes les apprendre à la flûte à bec. Et ensuite, le ukulélé, c'est arrivé seulement durant les dernières années. Et c'est un instrument qui tombe à être un bon instrument, abordable, qui dure longtemps aussi, qui est venu s'ajouter que, oui, la méthode ORF qui se concentre sur les xylophones et tout ça, bien là, on vient d'ajouter le ukulélé et on apprend les lignes mélodiques, on apprend les accords et maintenant on peut diviser les groupes. On peut avoir la moitié qui va le faire ou un certain montant qui font la flûte à bec, l'autre font le ukulélé et on a les xylophones. Donc là, on peut avoir vraiment une petite orchestre sans que ce soit des instruments d'orchestre comme les violons ou des instruments d'harmonie. Et si moi, je suis capable d'apprendre le ukulélé, ça veut dire que n'importe qui peut apprendre le ukulélé. Donc, moi, je trouve ça bien comme à leur dire, ben moi, je ne jouais pas cet instrument-là il y a 5 ans, mais je peux le jouer maintenant. Ils peuvent accompagner des chansons populaires. Donc, ils ont créé un lien avec l'instrument, de dire, oh, madame, je sais que tu écoutes beaucoup de musique française dans ta classe. Donc, ces chansons-là, ils viennent me dire, est-ce qu'on peut l'apprendre au ukulélé, madame? Oui. Et ça prend pas grande technique et grande pratique pour réussir. Mm-hmm. Vraiment, ça, 3 accords, puis on peut jouer 25 tunes. On avait appris la jument de Machao, j'oublie comment le prononcer, et c'est juste 3 accords. Ram-ram, 2 accords. Mais c'est important parce que c'est ce qui était important. Quand moi, j'étais jeune, on avait notre petit cahier de chansons ensemble. C'était des chansons accessibles, faciles à apprendre et qu'on pouvait partager avec tout le monde dans la communauté parce que tout le monde en apprenait la même chose.
Et là, on vit des succès.
Oui.
Puis ça, c'est important si on veut persister.
Puis vraiment aussi, flûte à bec, facile à transporter, mais dans le sac à dos. Pratique à maison, ukulélé, facile à transporter, facile à acheter pour la maison si quelqu'un... Je veux dire, j'ai plusieurs élèves que c'est ça qu'ils ont demandé à Noël. Puis c'est, je trouve ça super de demander pour un instrument de musique à Noël. Là. C'est comme, j'ai dit, allez pas demander un piano, ça coûte cher. Mais un ukulélé, quand même, ça leur permet de continuer leur relation avec la musique. Oui, la flûte à bec, je sais que c'est... moi, j'aime ça. J'adore la flûte à bec. Et il y a que moi, je pense, qui peut... Que, quand ils font leur concert avec les notes... Moi, je trouve ça fantastique parce que je me rappelle des débuts, le début, la première fois là, qu'ils ont commencé à essayer de jouer la flûte avec.
Quand ils étaient le vent de l'instrument.
Le vent dans l'instrument, madame. Et comment, quand, où est-ce que je... Que, non, c'est à l'envers. Non. Donc, oui, donc je pense que c'est ça qui aide à influencer beaucoup d'écoles et beaucoup de divisions. C'est aussi, oui, comme quand c'est une question d'argent, c'est on essaie de trouver des instruments abordables qui veulent vraiment assurer un bon développement musical.
Et j'imagine aussi, comme ces instruments sont petits, donc, comme dépendant de la taille de l'élève, c'est pas tout le monde qui veut jouer une guitare facilement, même en 5e, 6e, 7e, 8e année.
Absolument, absolument. Non, je suis d'accord. Des fois, quand je les vois avec les guitares, même si c'est une guitare pour enfants, c'est grand. C'est encore
maladroite. Ouais.
C'est vraiment ici, c'est propre. Et c'est plus intime. Je peux diviser les élèves comme, oh, eh bien, allez travailler ensemble, vous deux. T'sais, puis ils peuvent travailler ensemble un peu plus facilement avec ça. Puis de là, le ukulélé, ce qui est vraiment bien, c'est que ça, comme la flûte à bec, c'est, on est en train de développer une dextérité qu'on est en train de perdre chez les enfants. Moi, ça, c'est vraiment mon opinion non professionnelle. Là, c'est mes observations. Il y a une dextérité avec les mains que la technologie fait en sorte que, ou l'accès à la technologie, les jeunes écrivent moins souvent et tout ça. Donc, en travaillant la flûte à bec et le ukulélé, on est vraiment en train de faire bouger les doigts, créer des connexions avec le cerveau et le physique et de travailler ça. Puis, super important pour leur futur. Moi, je trouve, personnellement, c'est vraiment important qu'ils continuent ça à ce moment ici de leur vie, parce que le faire quand t'es adulte ou vouloir le travailler quand t'es adulte, ça va être beaucoup plus difficile. C'est comme apprendre une langue quand t'es adulte, ça prend un peu plus de temps. Et là, on est en jeunesse, en jeune enfance, en exploration, puis bon, c'est beaucoup plus facile de commencer maintenant.
Oui. Oui, c'est toujours un rêve que j'apprenne la guitare, mais j'ai pas vécu ces réussites, ces petites réussites. Je voulais être bonne tout d'un coup, puis c'est pas comme ça que ça marche. Et, bien, j'aurais dû commencer dans tes cours de musique.
C'est un gros défi, parce qu'on vit vraiment, de nos jours, ces succès instantanés.
Oui.
Mais c'est des succès instantanés qui sont basés sur l'expérience de groupe. Et l'expérience de avec l'enseignant qui vient dire oh, j'ai pas fait la bonne note. Oh, je sais, mais t'étais tellement bien assis, ta posture était bonne. Puis le rappel de dire que c'est pas quelque chose que tu fais à tous les jours. Donc, on prend ça mollo, on prend ça relax, on s'amuse. Il faut.
Alors, t'as déjà mentionné qu'il y a des liens entre, tu sais, la langue, la musique, qui est comme son propre langage, et que quand on chante ou quand on fait la musique, ça allume les mêmes parties du cerveau que la langue. Et tu as aussi mentionné, que j'ai trouvé super intéressant, que les élèves sont en train d'apprendre la langue française en même temps. Peux-tu me parler de ça?
Bien, tout le vocabulaire qu'on utilise, je veux dire, il y a plein de vocabulaire, et on enseigne des chansons dans d'autres langues, et tout ça, ça aide à développer juste l'oreille et la fibre. Plus ils entendent d'autres langues, ça aide l'oreille à rester comme développée. Mais en apprenant, par exemple, à chanter, parfois je vais trouver des chansons qui sont peut-être un peu plus avancées à leur niveau de vocabulaire. Mais je sais que ça va prendre un mois à apprendre cette chanson, puis dans un mois, ils vont être complètement ailleurs. Et ils vont avoir évolué durant ce temps. Puis ça m'a pris longtemps à être comme ça, à dire « Oh, mais c'est peut-être trop des mots trop compliqués. » Mais c'est puisqu'ils sont pas en train de vraiment penser à la lecture, à la technique, à comment ils te le disent. On est en train d'apprendre de chanter, pas apprendre à parler en français. Et donc, ils pensent moins souvent à comment qu'on prononce ce mot-là? C'est juste, on répète après Madame Micheline, puis on le répète et on le répète, puis on le chante, puis tout d'un coup, ils vont me demander un jour, « Madame, c'est quoi des glaces à mocha? » Je suis comme, « Des quoi? Des glaces à la mocha. » Je dis, « Ben, glace, c'est un autre mot pour la crème glacée. » « Oh! OK! » Puis ils continuent dans leur journée. C'est une interaction informelle, moins sérieuse que d'être là comme enseignante puis que je leur dise, « Bon, que veut dire ce mot-là? Que veut dire ce mot-là? Mm-hmm. » On le fait éventuellement, mais comme même en apprenant surtout, bien, on vient de récemment monter ou présenter Histoire d'antan, et mes maternelles veulent l'apprendre. Et j'ai fait, « Ouh! Il y a des grands mots là-dedans, beaucoup de syllabes! » Mais il y avait le désir. Donc, déjà là, ils ont entendu la chanson par les 5 et 6. Ils ont dit, nous, on veut apprendre cette chanson-là. Donc, c'est fait. On le fait, puis ils l'ont apprise. Ils l'apprennent par cœur. Puis, ils peuvent la chanter. Pas de problème. Donc, de savoir qu'ils comprennent le mot et chaque mot et la définition de chaque mot, bon, ça, évidemment non, là. Mais le fait qu'ils l'ont dans la bouche maintenant, ils l'ont dans la tête, ils l'ont dans le cerveau, dans le corps, ça va juste... Moi, j'espère que ça va venir aider à continuer à développer.
Et de toute façon, ils l'ont vécu.
Oui.
S'ils n'ont pas compris, c'est une autre affaire, mais ils ont vécu cette chanson.
Oui, t'as raison.
Ils ont fait des mouvements avec.
Oui.
Ils ont chanté les notes, ils ont chanté les mots, donc...
Les autres ont écouté. Ils ont vu d'autres camarades chanter ça. Ils étaient connectés avec eux. Et ils ont vécu l'expérience avec eux. C'est aussi important d'écouter et de vivre une expérience musicale que celle d'être celui qui le fait. La participation aussi, c'est aussi important dans le développement de ça, parce qu'on a toujours un beau feeling.
Et je pense que comme les chansons peuvent avoir un message différent dépendant de notre développement comme personne aussi, je pense à des chansons que j'ai apprises quand j'étais très jeune. J'avais aucune idée de quoi on parlait. Là, je les écoute maintenant. Puis c'est comme j'ai la nostalgie de comment je me sentais en écoutant cette chanson quand j'étais jeune. Et maintenant, je suis comme, OK, ça voulait pas vraiment dire ça, mais je le vis d'une manière différente, mais je l'aime quand même.
C'est la même chose avec un livre. Des fois, on va relire un livre ou revoir un film plus tard et on vit une expérience différente. Et oui, en effet, des chansons. Je suis certaine que les chansons que tu... J'ai déjà eu tes élèves aujourd'hui qui sont venus me dire, « Madame, demain, c'est vendredi, on va avoir une nouvelle chanson.
Oh, » yay!
On a tellement hâte. J'ai dit, « Est-ce que tu sais c'est quoi? » Non!
Mais je dévoilerai jamais.
L'importance, et aussi comme tu dis, oui, malheureusement, oui, on est tellement occupé en enseignement de demander au prof de rester, demeurer dans la salle de musique pour voir comment on travaille, comment on fait les choses, c'est demander beaucoup. Mais d'inclure la musique et l'écoute de la musique et même des chansons à trous, des affaires simples comme ça, il ne faut pas être musicien pour pouvoir inclure la musique. Cependant, c'est tellement à ton avantage dans la salle de classe de pouvoir inclure la musique. Comme je dis, point de vue développement du cerveau, point de vue développement de la communication, communiquer ensemble entre les élèves, entre tes amis. En musique, quand il y a une ligne musicale qui est une question, il faut que tu attendes la réponse. C'est exactement la même chose dans une conversation. Et le plus souvent qu'ils peuvent vivre ça dans une journée, c'est merveilleux. C'est merveilleux, ça continue à créer cet amour pour la musique. Et quand vous le faites en français, ça va juste continuer à les garder connectés avec leur langue.
Bien, ça, c'était mon défi. C'était que les élèves, toute la musique qu'ils écoutaient était en anglais. Puis c'était comme, mais ben, pourquoi tu ne peux pas jouer la musique en anglais? Bien, c'est parce que vous connaissez déjà cette musique-là. Mais là, j'ai dit, bien, alors on ne leur présente pas des chansons qui sont comme actuelles, comme qu'on entend comme à la radio, comme on présente les chansons en anglais. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé à présenter des chansons de groupes d'artistes très divers. Puis c'était pour combler ce besoin-là. On ne peut pas s'attendre à ce qu'ils écoutent la musique en français quand ils ne connaissent pas la musique en français.
Ils ne savent pas par où commencer. Puis il faut dire que ça arrive dans le milieu anglophone aussi. Je veux dire, à l'école, ils vont pas leur présenter les tunes qu'ils entendent à la radio à tous les jours. Ils vont essayer de faire quelque chose de spécial, trouver un artiste très recherché, un artiste d'une culture différente, des classiques. Ou des grands classiques aussi. C'est comme, je sais que j'ai des amis. Elie Sapir vient de faire une traduction de, d'une chanson, puis il y a une nouvelle connexion qui se fait avec cette chanson, là, une nouvelle découverte qui se fait, même si, c'est, même si elle l'a fait, elle le chante dans une langue différente. Et ça arrive... alors, du côté en éducation musicale en anglais, c'est là, il y a les mêmes défis avec les goûts et l'écoute musicale, mais en français, c'est d'avoir l'accès, qui est beaucoup plus difficile pour nos élèves en général. Je veux dire, il y a toutes les ressources possibles, mais regarde, si ça n'arrive pas dans deux secondes, ils vont pas... ils vont pas... Mais donc, oui, c'est pour ça, oui, dans les salles de classe, d'écouter de la musique appropriée à chaque niveau, c'est tellement important, tellement important. Puis, qui ont rapport avec peut-être quelque chose qu'on étudie en classe ou une expérience, quelque chose qui est arrivé en classe ou tout ça. Puis n'importe quand qu'un enfant, un élève arrive... puis t'offres une chanson en français qu'il a entendue à la maison, tu dois l'écouter et tu dois voir si c'est approprié pour ta classe et le présenter à la classe. Mais quand ça vient de l'élève, c'est super important, moi, je trouve, de valoriser ça et d'encourager ça et de vraiment dire « Wow! » comme t'as pris le temps de trouver quelque chose pour nous, puis tu l'as partagé.
Mais on ne peut pas demander mieux qu'un élève aille chercher lui-même des chansons en français, surtout quand on présente des artistes différents. Puis là, tu sais, ils découvrent eux-mêmes. Ça, c'est...
Ouais.
Ça, c'est exactement ce qu'on veut.
Oui, c'est exactement ce qu'on veut. On veut, parce que regarde, c'est pas quelque chose qui est académique, tu sais, c'est pas des maths, c'est pas... on n'est pas en train de former des grands musiciens, là, qui vont devenir musiciens professionnels. J'en ai quelques-uns que je suis convaincue qu'ils vont devenir professionnels, mais c'est pas le but non plus. Et leur apprendre que ce n'est pas le but. C'est le but, c'est que la musique peut faire partie de ta vie et doit faire partie de ta vie, de ta culture, de... et même pas ta culture, mais ta propre culture personnelle, ton identité, tes goûts, et que tu te sens à l'aise de partager ça. Donc, je trouve ça très important.
Et j'imagine que la répétition, comme quand on chante une chanson, on l'apprend, puis on répète, ça doit aider beaucoup les élèves qui sont peut-être en train d'apprendre la langue française, comme en maternelle ou en première, quand ils arrivent chez nous. Oui. Et aussi les élèves qui, peut-être, lisent moins bien ou pas au niveau. Oui.
Et comme je disais, c'est une façon... Donc, la façon dont nous, on présente les chansons, c'est, ou moi aussi, moi, je présente les chansons, c'est justement pour effacer... essayer de minimiser ce défi-là. Parce que non seulement, comme il y en a que maternelle, c'est à tous les niveaux. Et des fois, il y en a qui parlent trois différentes langues à la maison à ce moment-là et qui ne savent pas trop, mais dès que tu répètes et tu as le confort, la familiarité, et ça vient. Alors, c'est pour ça que c'est une façon d'enseigner, comme la méthode ORF et la rotation et l'écho. C'est à ton avantage parce que ça marche juste. C'est des courtes phrases. On les répète, on le fait en mouvement. Comme tu disais, t'engages toutes les façons d'apprentissage sans vraiment qu'ils s'en sont conscients même. Eux autres, ils pensent qu'ils sont juste en train de marcher comme des papillons. Mais ils sont en train d'apprendre ma chanson. Puis ça prend 2-3 cours, puis ils la connaissent par cœur.
Donc, ça, c'est pas mal impressionnant quand même.
C'est vraiment impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Surtout quand j'entends des élèves. Mon moment préféré, c'est quand je les entends dans le couloir, puis ils chantent une de nos chansons dans notre classe. Je suis comme, yes, oui! Il la connaît.
Oui, tellement.
Et aussi, il y a des élèves qui sont très observateurs, qui peut-être participent un peu moins bien, mais ils écoutent. C'est leur façon d'apprendre et de vivre. Et c'est ceux-là, des fois, que j'entends dans le corridor qui chantent la chanson en partant, parce qu'ils ont juste choisi leur façon de l'apprendre est peut-être un petit peu différente. J'essaie de respecter ça aussi pour pas trop... je veux pas trop les froisser. Je veux pas justement parce que je veux pas qu'ils aiment pas l'expérience en salle de musique.
Alors, ça me fait penser à comme Évidemment, tout le monde devrait être en train d'intégrer la musique dans la salle de classe, comme de toutes les manières possibles. Est-ce que tu as des idées pour nous de comment on pourrait faire ça et comme surtout pour les gens qui sont moins à l'aise avec la musique?
Oui.
Comme c'est pas tout le monde qui aime chanter, c'est pas tout le monde qui aime même se faire voir écouter une chanson. Même ça, ça peut être vraiment personnel.
Ben, il y avait quelques années, j'avais eu la chance d'avoir un contrat à enseigner à une université. On offrait un cours d'art et il fallait qu'ils prennent des cours d'art, des cours de musique et cours de théâtre pour pouvoir les intégrer dans leur salle de classe. C'était pas pour les former comme spécialistes dans ces cours-là. Donc, il y a déjà ça, essayer de comme démystifier l'enseignement de la musique au niveau du bac et de l'éducation. Il y aurait ça pour commencer, avoir de la chance d'avoir des ateliers, ouvrir des ateliers, donner accès aux enseignants et tout ça. Puis on essaie, je veux dire, les dernières fois à nos rencontres à DSFM, on a essayé, tu sais, on chante une chanson au début, on vous fait bouger, taper les mains, tout ça. Puis ça fait brise-glace en plus, donc ça réunit aussi tout le monde. Donc, il y a déjà ça, peut-être, à ce niveau-là, dans la responsabilité, dans le vouloir de l'éducateur ou l'éducatrice d'aller chercher ces informations-là, parce qu'on est très généreux, on va donner toutes les informations possibles. Et des stratégies, déjà, que tu peux faire immédiatement, comme ta chanson tous les vendredis. Quelque chose de prévisible aussi, comme je vois des enseignants qui font des listes d'écoute. On a 100 chansons à écouter cette année, voici nos 100 chansons. Et leur donner le choix d'aimer, pas aimer, d'en parler. Faire des feuilles de réflexion, en parler, les présenter, dire « Mais moi, j'ai moins aimé à cause de ça, 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 ça. Mais j'ai aimé celle-là parce que mon papa l'écoute tout le temps quand on va au hockey. » Des affaires comme ça. Et les faire comprendre à quel moment que vous écoutez de la musique tout le temps. Bien, au hockey, en se réchauffant. « Ah, regarde, dans les sports, il y a de la musique. » Wow! C'est, ou ceux qui prennent des cours de danse. Hey, ben c'est quoi ta chanson pour ta routine en ce moment? Et des chansons à trous. Ça, tu prends toutes les paroles puis tu effaces quelques paroles.
Oui, j'admets que quand je ne sais pas quoi faire avec une chanson, ça, c'est
ça. Ça, oh, oui, mais ça. C'est excellent, c'est fantastique. C'est vraiment, ils adorent ça parce qu'il y en a qui réalisent. Puis c'est drôle, ça devient drôle parce que des fois, il y a plusieurs chanteurs qui prononcent très mal. Je ne vais pas les nommer.
Mais... Comme ça commence avec un S, ça termine avec un A et la lettre au milieu, c'est I.
C'est vraiment comme... Qu'est-ce qu'elle vient de dire, là? Moi, j'ai l'oreille vraiment tendue, là.
Oui.
Et...
Elle articule pas.
Ouais, bien ça, c'est aussi... Il y a des modes dans la musique pop, surtout, qui arrivent et qui se développent comme ça. Puis, regarde, c'est eux qui font les millions, c'est pas moi. Alors, je vais vraiment pas aller les critiquer plus que ça. Mais ce qui est le fun, c'est quand tu fais les chansons à trous, ils découvrent des petits mots comme ils vont... Pain? Ben non, c'était bouteille. Mais alors, tu sais, c'est drôle après ça. Ça fait un moment drôle, un moment où ils peuvent rire. Encore de pas dire que, ben non, ça, c'était pas bien, c'était pas ce mot-là. Ben non, t'as écrit une nouvelle chanson, là. Il y a écrire des chansons avec tes élèves. Découvrir c'est quoi une structure musicale simple et faire écrire des couplets. J'ai des niveaux qui pourraient faire ça tous les cours de musique, écrire des chansons. Ils aiment tellement ça. C'est comme écrire une histoire. Tu as un thème, tu as des mots, tu as des liens. Tu peux avoir un ukulélé avec juste 3 accords, puis tu es garanti d'avoir une chanson à la fin de ta journée. Si j'ai tort, ben je vais l'écrire pour vous. Ben. Je vais faire mes preuves. Puis, des fois, de la musique de transition, souvent comme à la maternelle et la petite enfance, inclure des petites chansons pour des moments de transition. OK, ça, c'est notre tune qu'on joue quand on nettoie.
Oui.
Ça, c'est notre... Ça déclenche quelque chose où ils n'ont pas besoin de penser. C'est comme, oh, la chanson est arrivée. OK, on nettoie.
J'ai copié la mélodie de la lime. Mm. Et c'est maintenant, on range, on range, on range, on range. Ça, c'est ce qu'on chante quand je veux vraiment leur attention.
Ça n'a pas besoin d'être compliqué, là. On n'est pas en train d'écrire des symphonies de Mozart, là. Tu sais, c'est mettre des mots sur des chansons connues, changer les mots, changer... je me souviens d'une activité qu'on nous avait suggérée, je pensais que c'était de la self, de OK, on va prendre à la Clairefontaine, on va la faire en rock, en jazz, en ci, en ça, en n'importe quoi. Et juste ça, c'est facile à intégrer, même pour un enseignant qui n'est pas musicien. Et dans toutes les écoles, vous avez accès à votre prof de musique, qui est super occupé, mais qui va te donner des super bonnes ressources. Mais c'est ça, c'est que ça n'a pas besoin. Des fois, ça peut être un journal de réflexion. À une époque, je faisais ça, un journal de réflexion que je ne lisais jamais. On écoutait la musique, puis ils pouvaient écrire ce qu'ils pensaient de la chanson. Puis s'il y en avait qui voulaient partager, oui, parce que des fois, t'sais, on veut juste pas partager, puis je suis correct avec ça. Tant que tu écrives quelque chose, je peux voir que tu as écrit une opinion, tu as écrit quelque chose sur cette chanson. C'est une activité, c'est quelque chose. C'est une connexion que tu as faite.
Oh, j'aime beaucoup ça. Bien, Micheline, tu as dit tellement de choses intéressantes. Je ne sais même pas où aller. Est-ce qu'il y a des choses que j'ai manquées, que tu as vraiment envie de me partager, de partager avec tout le monde?
Bien, comme j'ai dit, moi, je dis toujours que c'est mon opinion pas professionnelle. J'aurais pu comme citer des articles, des études. J'en ai plusieurs parce que j'ai toujours du backup. Oui, mais l'étude en Californie nous a dit... mais c'est vraiment du vécu. C'est vraiment en voyant les jeunes et en vivant avec eux et aussi en se rassemblant avec avec d'autres profs en musique qu'on a très rarement la chance de faire parce qu'on est occupé. Mais quand on se rend compte de vraiment se partager puis qu'on est tous sur la même longueur d'onde aussi avec tout ça, avec cette importance de la musique, avec cette... ça vaut quelque chose, ce que ça vaut. Puis autant que ça vaut l'éducation physique, les études en art, l'art plastique, tout ça, tous les moments où ils peuvent vivre en français quelque chose autre que l'académique. Je trouve ça tellement, tellement important. Puis le meilleur moment où ça fait ses preuves, c'est durant des spectacles. Quand tu viens voir ton enfant, puis tu pleures parce qu'ils ont tellement bien chanté. C'est magique. Et quand tu es touchée parce que c'est la première fois que ton enfant a osé présenter devant quelqu'un, c'est super. C'est super. Moi, chaque spectacle, je suis en larmes. Tout le temps. Tout le temps. Pourquoi tu pleures, madame? Je pense que vous êtes tellement bon. Et de monter sur scène, c'est quelque chose que des gens ne font pas. Et c'est aussi simple que dans ta salle de classe, peut-être que ton groupe peut aller chanter une petite chanson à une autre classe. Juste ça, c'est déjà spécial. Ça n'a pas besoin d'être super compliqué et super raffiné et technique et tout ça pour que ça vale quelque chose.
Alors, ma grande question de la fin, de tout ce que tu as dit, de tout ce que tu as vécu, c'est quoi, de quoi es-tu la plus fière dans ta carrière à date?
Oh, tu m'avais... Je sais. Oui, tu m'avais envoyé cette question-là.
Tout le monde réagit comme ça.
Oui.
Je te force de vanter.
Ben, on enseigne dans la salle de classe et dans les écoles. Je veux dire, moi, dont je suis plus fière, c'est qu'à un moment, j'ai pu pivoter et puis pouvoir écouter l'élève davantage. Au lieu de me stresser de ce que moi, je devais faire, que je devais faire ça, que ta-ta-ta-ta... Quand je voyais des élèves qui venaient me voir, qui étaient tellement dans une humeur juste pas bien dans leur assiette ou quelque chose, mais qui pouvaient venir au cours, et je pouvais leur dire, tu sais quoi, ici, on tourne la page, on va faire de la musique, on va jouer et on va danser. Joins-toi quand t'es prêt. Et de voir se transformer tout à coup, ça c'est... Je suis fière que j'ai pu remarquer ça avant qu'il soit trop tard. Et avant aussi de prendre ça négativement et de prendre des élèves que peut-être qui sont moins excités des cours de musique et de voir vraiment venir dans le groupe et s'intégrer et vraiment participer au cours comme ça, de trouver une façon de participer. ça, alors vraiment de découvrir, d'écouter les élèves davantage. Ça, j'ai beaucoup appris comme ça derrière moi.
Merci tellement de ton temps et d'avoir partagé tes expériences.
Et merci, ça m'a fait plaisir. Merci de l'invitation.
Jason Éducation est un balado créé et réalisé par moi-même, Juelle Boulay, en collaboration avec WebWest Balado. Pour ne jamais manquer un épisode, abonnez-vous à Jason Éducation sur votre appli de balado préféré ou visitez webwest.ca. Je vous invite également à évaluer le balado sur iTunes.